Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 288 du podcast Jean Actuel Amatei. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de vos aventures d'intersaison et à mes côtés pour de nouvelles aventures cette semaine, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
T-shirt jaune, sweat noir et jaune, capuche jaune, beaucoup de jaune.
Tout à fait, habillé à Michigan, INSEP en plus. Hein,
Michigan.
Je vais voir la mèche.
Grégory, on est donc de retour pour parler draft. On est tous les deux en tête-à-tête. On enregistre dans toutes les conditions cette année. On a fait un studio à un endroit, un autre endroit. Là, on s'est mis tranquillou sur une petite table avec un enregistreur, montage post-prod, des jingles. Enfin, on fait tout ici maintenant. Grégory, donc, on continue les podcasts draft. On commence même les podcasts draft, parce que la dernière fois, c'était le top 15. Maintenant, on s'attaque poste par poste. On commence par quarterback, receveur, et tight end, puisque je joue
tout à fait
les tight end. Les running back et les coureurs, ce sera la deuxième émission. La ligne défensive et les linebackers, la troisième. Et puis on terminera avec cornerback, safety et équipe spéciale, histoire de caler un petit peu les punters et les kickers par là. Grégory, j'espère qu'on a encore plein de bonnes anecdotes des joueurs qui vont révolutionner des franchises, les Giants qui vont trouver quelqu'un pour remplacer immédiatement Odell Beckham, la pièce manquante d'une autre équipe, tout est là, on est d'accord.
Bah, j'espère que je vais vendre du rêve à certains, aux Giants par exemple que tu citais, ça va être il y a quand même quelques prospects intrigants à suivre, donc on va débriefer, décortiquer ça.
On est parti, premier jingle et on enchaîne.
This is Jerome Simpson from the Minnesota Vikings and you're listening to the Touchdown Podcast.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence donc nos présentations draft de cette année 2019 sur Touchdown Actu avec les quarterbacks. Grégory, nous allons donc procéder, alors je rappelle pour ceux qui découvrent peut-être le podcast Touchdown Actu Draft, les épisodes draft, donc le principe est assez simple, j'ai des fiches, j'ai les bases, et ensuite je découvre les joueurs, Grégory est là pour nous guider, il va me guider, je suis l'idiot utile dans ce podcast, je pose les questions idiotes et il n'y a pas de questions idiotes, et je vais vous aider à découvrir avec l'aide de Grégory tous les prospects les plus intéressants et de temps en temps j'essaierai de caler une mauvaise blague ou un jeu de mots, voilà, des choses comme ça. Grégory, donc pour les quarterbacks on s'est organisé de manière très simple, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, donc grosso modo par ordre de niveau. Dans le premier tiers on a trois joueurs, Dwayne Haskins, Kyler Murray et Drew Locke. On va commencer par Dwayne Haskins, Ohio State, 1m91, 100 kg, 14 matchs l'an dernier, 70% de passes complétées, 4831 yards, 50 touchdowns pour 8 interceptions seulement et 4 touchdowns au sol. Les stats sont quand même hyper impressionnantes, 50 touchdowns pour 8 interceptions, c'est pas mal. Est-ce que c'est le meilleur quarterback de la draft, du coup, vu que tu l'as mis en 1?
Alors, selon moi, oui. Tu disais, ses stats sont assez bluffantes. Il a fait partie sans doute des trois meilleurs joueurs, en tout cas des trois meilleurs quarterbacks de la saison passée, avec notamment un autre prospect qu'on va évoquer tout à l'heure. Il n'était pas très très loin du trophée Heisman qui récompense le meilleur joueur universitaire de la saison. Et du côté d'Ohio State, on avait l'habitude, on dira au cours des dernières décennies, d'avoir des quarterbacks assez mobiles, enfin en tout cas d'avoir un jeu au sol, avoir un jeu très axé au sol, avec des quarterbacks qui passaient mais sans que ce soit hyper fulgurant. Dwayne Haskins a quand même un petit peu révolutionné ça du côté de l'attaque des Buckeyes. Là, on a vraiment purement un quarterback, un pocket passeur. Et d'accord, ça se ressent, il est pas très mobile, ça se... Il a un côté un petit peu pâteau, c'est vrai, il paraît quand même assez grand, assez longiligne, et il a paradoxalement une mobilité qui n'est pas extraordinaire, donc en tout cas pour prolonger les jeux, ça peut jouer contre lui. Après, si on regarde ce qui nous intéresse le plus, moi en l'occurrence, son jeu à la passe, son placement est quand même assez correct, il a une mécanique qui est relativement propre, avec une précision qui va avec. Très franchement, Ohio State n'a pas affronté que des cadors cette année, c'est sûr. Ils n'ont pas forcément toujours eu un calendrier compliqué. Mais en tout cas, ces 50 touchdowns et 8 interceptions, elles ne sont pas non plus le fruit du hasard. C'est un quarterback qui est très précis, notamment dans les zones intermédiaires. Il a un bon bras, donc je dirais avec une lecture peut-être un petit peu améliorée au niveau du jeu profond, ça peut également se développer. Après, ça soulève également un autre point d'interrogation. C'est son expérience.
Ce que j'allais te dire, il a 21 ans, il aurait pu rester à la fac, il aurait pu rester une année de plus. Donc est-ce que ça reste un projet ou est-ce qu'on considère qu'il est prêt opérationnel jour 1?
Moi honnêtement, faut pas oublier, alors il est arrivé, faut recontextualiser un petit peu parce que il a joué une saison pleine cette année en 2010, enfin lors de la saison 2018, celle qui vient de se terminer. L'année d'avant, il est arrivé aux commandes de l'équipe en fin d'exercice lors d'un match contre Michigan, donc la grosse rivalité d'Ohio State, en déplacement. Et pourtant, il a fait preuve vraiment d'une maturité assez bluffante pour un joueur de cette jeunesse, on va dire, notamment en termes d'expérience. Donc je me fais pas forcément de soucis. Après, voilà, comme je disais, c'est sûr que il y a encore peut-être des lectures à perfectionner, même si du côté d'Ohio State, il a quand même eu une attaque assez épurée, avec énormément de cibles différentes, des running backs qui étaient souvent sollicités également. Donc, il a vu quand même beaucoup de choses, et je pense pas qu'il va arriver en NFL en découvrant forcément des systèmes de jeu. Donc, je me fais pas forcément de soucis. Allez, peut-être quelques mois dans l'ombre, on dira, d'un quarterback titulaire, mais je ne serais pas étonné qu'il soit titulaire à l'issue de sa saison.
Tu me tends la perche quelques mois dans l'ombre d'Eli Manning.
Par exemple, en tout cas, on sait qu'en tout cas, il a clamé au effort que son amour pour les Giants, ce serait cohérent. Après, il y a des avis un petit peu contraires. Certains qui disent que les Giants le scoutent allègrement, d'autres qui expliquent que c'est pas forcément le cas. Faudra réussir à démêler le vrai du faux, mais en tout cas, sur le papier, Dwayne Haskins aux Giants, ça a du sens.
Ça, de toute façon, les rumeurs et les pronostics, c'est toujours très périlleux un mois avant.
On va être gâtés sur les quarterbacks cette année.
On sait très bien que ça va être compliqué. Encore une fois, je fais l'idiot utile. Je lis je parcours pour chaque joueur un petit peu en préparant l'émission, des fiches, et je regarde un peu ce que je vois d'intéressant, pas intéressant, etc. Moi, je lisais qu'au niveau des lectures, est-ce qu'il est suffisamment poli là-dedans? Est-ce qu'il est suffisamment avancé?
Non, c'est ce que je te disais, c'est vrai que dans les tracés, on dira courts, intermédiaires, c'est pas un quarterback à mon sens qui prend énormément de temps pour lancer le ballon, donc c'est-à-dire que quand il arrive à identifier sa fenêtre, il va pas forcément, paniquer sous la pression. En tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti, et pourtant, sur certains gros matchs de Big Ten, il y avait quand même des défenseurs pour lui mettre la pression, donc il a quand même cette capacité à être relativement précis et fiable dans les zones intermédiaires. Après, il a le bras. Est-ce qu'il sera capable de ne pas se faire piéger par, certains coordinateurs un peu créatifs? Surtout qu'on sait que ces dernières années, il y a des backfields qui sont très renforcés avec des assignations qui sont un petit peu brouillées par les coordinateurs. Il va y avoir cette donnée-là à prendre en compte, mais je ne me fais pas forcément de soucis sur cette lecture à terme.
Est-ce qu'il sera sélectionné en numéro 2 parce que tout le monde va se ruer sur les quarterbacks et qu'il sera 1 et 2 avec celui dont on va parler après?
Dans mon big board, il est numéro 30, je crois, de tête.
Oui, ils sont très bas. Vous rappelez qu'on n'a pas parlé de quarterback dans le top 15.
Oui, ils sont pas forcément très cotés. Après, on le dit, on le répète chaque année, de toute façon, la position de quarterback, elle est entre guillemets biaisée aux yeux des scouts. C'est-à-dire que forcément, on va les voir plus beaux qu'ils ne sont parce que ça reste une position... voilà, ça reste une denrée rare malgré tout en termes de talent à trouver. Maintenant, hors top 10, ça m'étonnerait fort. Bon. Mais c'est possible qu'il y ait une équipe qui tente le tout pour remonter dans le top 5 et récupérer.
Numéro 2, Kyler Murray, Oklahoma, 1m78, 88 kg, 14 matchs, 69% de passes complétées, 4361 yards, 42 touchdowns et une seule interception, 12 touchdowns au sol. Kyler Murray, évidemment, alors on rappelle, il avait le choix avec le baseball, il a fini par choisir le football américain, ça c'était la première incertitude, elle est levée. Clairement, la première question, c'est son gabarit. Il semble très, très frêle. Je voulais même comparer avec Lamar Jackson, mais en fait, il n'y a même pas comparaison. Lamar Jackson, il fait 1m91, donc il lui met déjà 13 cm.
Non, il fait 1,80.
Kyler Murray ?
Oui.
Alors, moi, j'ai 1,78.
Oui, 1,78, oui. Je crois qu'il est encore plus petit que Russell Wilson. Je ne veux pas dire de bêtises, oui. Mais...
Il n'a pas l'air très grand. Donc, il va devoir jouer en shotgun, il va falloir changer d'attaque. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ?
Bah, alors, moi, c'est un peu... Parce que j'ai vu certains lecteurs et auditeurs qui s'étonnaient notamment de mon scepticisme à l'égard de Kyler Murray. Le propos, c'est pas de dire que le fait qu'il ait été meilleur joueur universitaire cette saison, c'est un leurre pour son futur en NFL. C'est simplement que, contrairement à Dwayne Haskins, que je pense quand même assez, on dira sûr pour pas mal de franchises dans un futur proche, Kyler Murray, il y a beaucoup de pincettes à prendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans un bon système, avec un casting qui soit suffisamment compétent entre guillemets pour le faire briller.
Est-ce que tu es d'accord qu'il faut tout construire autour de lui et qu'il faut modifier une attaque du coup ?
En tout cas, à Oklahoma, c'est ce qu'il avait.
D'accord.
Oklahoma, c'est ce qu'il avait. Alors.
Donc, vaut mieux une franchise en ruine. Comme ça, on reconstruit autour de lui, quoi.
Oui, bah, si on prend l'exemple des Cardinals, voilà, tu peux partir sur une franchise entre guillemets en ruine. Alors, mais voilà, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est ça, parce que si tu prends vraiment le prospect pur en lui-même, il y a du talent. Et moi, ce qui m'embête un petit peu par rapport à Kyler Murray, c'est qu'on cherche absolument, de par la trajectoire qu'a eu Baker Mayfield l'année dernière notamment, à en faire un nouveau Baker Mayfield. Pour moi, c'est pas le même profil. Kyler Murray a une meilleure mobilité, arrive justement parce que ça a été son avantage, c'est qu'il a été souvent capable de se dégager de la pression, d'éviter certains sacs, même quand sa ligne offensive, qui était au passage très solide, on ne sait pas comment ça se passe avec une no-line qui sera un peu plus poreuse en NFL, quand sa ligne relâchait un petit peu de l'est, il arrivait quand même à se dégager de la pression. Maintenant, en termes de prise de décision, je le trouve un peu moins rassurant que Baker Mayfield. Et ce qui m'amuse un petit peu, c'est qu'on avait tendance, de par les problèmes extrasportifs, à comparer un peu Baker Mayfield et Johnny Manziel. En termes de jeu, et je ne vais pas me risquer à dire que Kyler Murray égale Johnny Manziel, il est beaucoup plus performant dans le domaine aérien, mais il y a déjà plus de similitudes entre Murray et Manziel qu'entre Mayfield et Manziel. Donc voilà, après, encore une fois, voilà, il y a des prises de décision à améliorer. C'est un joueur qui a une seule année d'expérience en college football également, à l'instar de Dwayne Haskins. Et avant d'arriver à Oklahoma et de péter tous les records dans une attaque qui était déjà très performante.
Qui était menée par Baker Mayfield l'année d'avant.
Il a eu un passage un peu compliqué à Texas A&M. Une équipe qu'il a quittée. Alors, c'est pas forcément de son fait parce que c'était déjà un petit peu devenu un bourbier du côté des Aggies. Mais en tout cas, il a rien fait, on va dire, pour remonter la franchise à ce moment-là. Donc, encore une fois, c'est ça qui sème un petit peu le doute. C'est ce côté, voilà, est-ce que au niveau des prises de décision, ça va être suffisant? Oklahoma a pas perdu beaucoup de matchs cette année, mais quand ils les ont perdus et que Murray était pas au niveau, on a eu tendance à avoir un Kyler Murray qui a beaucoup déjoué. Donc voilà, il y a quand même des signes qui, moi, me rassurent pas complètement. On peut le tenter en numéro 1 à Arizona, comme le veut la rumeur, mais ce sera pas sans risque, selon moi, en tout cas dans un premier temps.
Donc, tu as parlé de Manziel. J'allais te demander si Russell Wilson, c'était une comparaison valable, mais ça a pas l'air d'être le cas. Tu disais même qu'il prenait des moins bonnes décisions. Donc,
C'est très compliqué de trouver un joueur qui ressemble quand même à ce qu'on a déjà vu avec Kyler Murray. Peut-être que Wilson, oui, ça peut s'en rapprocher parce qu'en effet, il y a la mobilité. Après, Murray me paraît quand même beaucoup plus aguerri dans le domaine aérien que pouvait l'être Wilson à sa sortie de Wisconsin. Mais en tout cas, voilà, ils ont des similitudes, la double compétence football-baseball en plus.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, c'est sûr que s'ils s'inspirent de ce qu'a fait Wilson avec le bagage qu'il a déjà, ça peut éventuellement être quelque chose d'intéressant à l'échelon supérieur.
On passe à Drew Lock, Missouri, 1m93, 102 kg, 13 matchs, 62,9% de passes complétées, 3498 yards, 28 touchdowns, 8 interceptions. Est-ce que c'est pas lui, alors encore une fois, moi j'ai l'œil de l'observateur qui a pas les kilomètres de bande et qui est pas fasciné par le combine. Est-ce que c'est pas lui qui est le plus NFL ready, moi quand je regarde au premier abord, en tout cas selon les standards physiques, taille, poids, jeu, quand je le regarde, c'est celui qui ressemble le plus à un quarterback NFL.
Alors, je suis d'accord avec toi, il a beaucoup de choses, en effet, il a le gabarit, et je trouve qu'il a surtout la mécanique de lancer,
oui,
et la précision, parce que il y a quand même eu pas mal de changements autour de lui du côté de Missouri ces dernières années, et malgré ça, il est toujours resté performant, et il a toujours permis à l'attaque aérienne des Tigers d'être vraiment au niveau et de jouer les troubles faits dans la conférence SEC, qui est quand même pas la plus petite conférence en college football, en l'occurrence.
Tu dis SEC maintenant, tu dis plus SEC?
Ouais, non, j'ai toujours dit sec.
Ah ouais, je me souviens de SEC.
Bah, SEC, moi, ça m'embrouille avec la CC, donc. Mais bon, c'est pas très très grave, on va pas. Ça, c'est un autre débat.
Pour les non-NCA, donc on dit SEC, enfin, c'est la SEC, hein, voilà. Donc voilà. Ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est
Southeastern Conference, je crois.
Southeastern Conference, donc c'est la grosse conférence avec Alabama.
C'est ça, avec Alabama, LSU, ouais. Florida, etc.
Donc, excuse-moi, tu disais donc.
Donc oui, non. Après, c'est un. Il a montré là pour le coup les deux premiers quarterbacks dont on parlait. On disait qu'il y avait qu'une seule année vraiment au plus haut niveau. Là, il y a quand même deux, voire même trois ans où Drew Lock a pleinement tiré cette équipe vers le haut. Donc, honnêtement, c'est sûr que d'un point de vue standard NFL, il répond à peu près à tout. La grosse chose qui inquiète avec Drew Lock. Il me semble que la fiche a déjà été publiée sur le site par mes soins d'ailleurs. C'est ses failles mentales.
Alors c'est ce que j'allais te dire, moi c'est ce que je dis partout en effet, c'est que les seuls problèmes ont l'air, c'est pas un assez bon leader, c'est pas ceci, c'est pas cela.
Alors c'est sûr que c'est encore plus criant parce qu'en effet il est tombé sur des grosses défenses dans sa conférence et que sur certains matchs ça s'est vu un petit peu plus. Alors après c'est paradoxal parce que c'est sûr que contre Alabama il a eu tendance à un peu déjouer, mais comme l'ensemble de l'attaque ce jour-là. Après, je prends un match contre Florida où la défense des Gators, c'est pas mauvaise non plus. C'était à Florida en plus, et il a quand même été assez costaud. Mais après, c'est sûr que c'est des choses qui rassurent pas complètement si t'envisages d'en faire un titulaire d'emblée en NFL. Je pense que ce serait pas inintéressant de le garder dans un premier temps en tant que projet, parce que c'est vrai que cette gestion un petit peu aléatoire de la poche, ça peut être problématique quand t'affrontes des grosses défenses et encore une fois des coordinateurs qui peuvent se montrer créatifs.
On n'a pas parlé précision, mais c'est bon de ce côté-là.
C'est pas ce qui m'inquiète en tout cas. Il y a encore une fois, voilà, à part le placement est vraiment, enfin le placement lié encore une fois à la pression, à la manière dont il gère la pression quand elle arrive. Honnêtement, la majeure partie des cases, il les coche.
À quel niveau? Du coup, il sera sélectionné. Les deux autres, on sait que ça va être très haut. Drew Lock, ça commence à être plus incertain.
Honnêtement, de ce qu'il a montré au Senior Bowl et même au Combine d'ailleurs, où il a montré quand même une assez bonne mobilité, paradoxalement, il y a une équipe qui peut très bien monter au premier tour pour le récupérer à la fin de la journée. Après, sur le papier, j'en fais encore un début de deuxième tour. Ça dépend. On a vu qu'il y avait beaucoup d'équipes qui n'étaient pas forcément dans l'urgence pour recruter un quarterback aujourd'hui. Ouais. Mais s'il y a une équipe qui veut monter un projet... Exemple Patriots, pourquoi pas, s'il leur plaît, hein, c'est pas sûr à 100%, mais ça peut se tenter en fin de premier tour.
Deuxième chapeau, donc deuxième tiers, un niveau en dessous, on a Daniel Jones, Will Greer, Brett Ripien et Jordan Ta'amu. On va commencer par Daniel Jones qui sort de Duke, alors qui est plutôt une fac réputée basket. Hein. Mm-hmm. 1m96, 100 kg, 11 matchs, 60,5% de passes complétées, 2674 yards, 22 touchdowns, 9 interceptions, 3 touchdowns au sol. Alors, Duke, c'est pas une grosse fac de foot US. Mais son mentor à Daniel Jones, ce serait un certain David Cutcliffe, qui était le mentor d'Eli et Peyton Manning. Donc, on doit miser sur de l'intelligence de jeu, je suppose.
C'est ça, bah c'est une de ses principales facultés. C'est un quarterback qui est assez solide, assez intelligent dans son jeu, qui a un bon bras également pour un quarterback. Encore plus ces derniers temps en NFL, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. En termes de précision, je vais me répéter un peu par rapport à Haskins, mais on dira que sur des lancers un peu courts, ça va. Sur des lancers un peu plus profonds, c'est un peu aléatoire. On a vu par exemple que sur le ball qu'il a disputé, alors je sais plus contre quelle équipe, mais c'est pas très important. En tout cas, il avait pris feu littéralement. Ça rappelait un petit peu ce qu'avait fait Josh Allen l'année dernière avec Wyoming avant de partir. Donc, il y a un potentiel. En effet, il est passé avec un coach qui a déjà façonné des quarterbacks NFL. Donc, sur le principe, le système pro style, il connaît. C'est pas un quarterback qui va être vachement dans la prise de risque, mais c'est un projet qui peut être intéressant à couver sur 2-3 ans. Derrière certains joueurs, on parle. Alors, je prends l'exemple des Patriots, mais derrière un Drew Brees derrière un quarterback dont on sait qu'il ne va pas encore jouer 10 ans, ça peut être un joueur intéressant à développer.
Je crois que je vais rajouter un extrait sonore de Macron qui hurle, c'est notre projet. À chaque fois que tu le dis, j'ai envie de le mettre pour certaines émissions. Là, il faudra que j'ai ça, ou pour la draft, ou enfin, faut que je trouve des trucs. Pour l'ami Daniel Jones, moi j'avais lu qu'il était peut-être un peu long sur sa mécanique de lancer. Enfin, il était un peu long pour lancer.
C'est une des choses qui sera à surveiller.
Comment je t'apprends des
faut
choses.
Surveiller, faut surveiller également le côté blessure. Il me semble qu'il a eu. Alors, c'est où? C'était la clavicule. L'épaule, je sais plus. Enfin, il s'est blessé cette année. Il a eu quelques petits pépins aussi les années précédentes. Voilà, ça peut aussi être un quarterback fragile et bon, faut voir comment il arrive à gérer les chocs, sachant que dans l'ACC, il a pas non plus l'autre ACC. Il n'a pas non plus croisé que des énormes défenses, donc à surveiller.
C'est un premier tour ou pas, où on n'y est plus là, c'est...
Ça peut en être un. Là aussi, si une équipe est amoureuse, elle peut remonter, mais pour moi, c'est deuxième. Voire quand même troisième tour.
D'accord, donc on commence à baisser. Will Greer, Virginia, 1m91, 98 kg, 11 matchs, 67% de passes complétées, 3864 yards, 37 touchdowns, 8 interceptions, 3 touchdowns au sol. Il manque de bras, de ce que j'ai lu. Pourquoi tu le mets si haut, du coup, s'il manque de bras?
Parce que c'est également un projet. C'est un quarterback qui est... au parcours un petit peu tortueux en college football, c'est-à-dire que avant d'arriver à West Virginia, il était donc chez les Florida Gators. Il est arrivé, il a vraiment pris la place de titulaire indiscutable du côté de Gainesville, et on va dire que c'est une sombre histoire de prise de médicaments interdits. Enfin voilà, il y a eu une histoire un petit peu trouble qui a fait qu'il a été chassé du campus de Florida. D'accord. Et du coup, il s'est relancé à West Virginia dans une attaque un petit peu plus explosive, un petit peu plus justement air raid, parce que c'est un petit peu la mode avec l'histoire de Kyler Murray. Donc, il est un petit peu dans ce profil-là, et du côté de West Virginia, il a quand même pas mal performé. Mais du coup, c'est un quarterback qui a quand même vu pas mal d'attaques différentes, on dira, hein, des systèmes offensifs assez variés, mine de rien, entre Florida et West Virginia. Après, c'est sûr qu'il a un bras qui joue pas pour lui. La mécanique de lancer qui va avec également, à mon sens. Mais là, pour le coup, je parlais de quarterback qui ont quelques soucis sur les lancers profonds. Bon, il arrive à trouver ses cibles, mais voilà, il faut que le receveur arrive à se démarquer, parce que en effet, au duel, ça va peut-être être un peu compliqué.
C'est pas super rassurant, du coup. C'est là, on est dans le projet, en effet, et pareil, projet 3e, 4e tour alors.
Ah, pour moi, oui. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est fin 3e, 4e tour à peu près.
Brett Ripien, Boise State, 1m88, 92 kg, 13 matchs, 67% de passes complétées, 3705 yards, 30 touchdowns, 7 interceptions. Alors lui, ça a l'air d'être l'inverse. Superbe sur le plan technique, à perfectionner sur le plan mental.
Ouais, c'est un peu ça. Après, il y a forcément, ça fait partie de ces prospects où c'est encore un peu dur de se projeter, dans le sens où bon, il sort de Boise State.
C'est l'équipe qui a le beau terrain bleu.
Exactement. Une équipe qui, bon, on va dire, affronte de bonnes équipes, mais qui est pas dans une énorme conférence. Et
c'est la fac qui faisait des polémiques tous les ans, à une époque qui gagnait tous ses matchs, mais qui réclamait le respect parce qu'ils n'étaient pas classés assez haut, c'est ça?
Tout à fait. Bon, ça c'est un peu un serpent de mer en college football, les petits programmes qui gagnent beaucoup et qui. Mais bon, là pour le coup, et Boise State c'était assez costaud. Mais c'est vrai que le dernier gros prospect et le dernier gros quarterback qui sort de Boise State est.
Kellen Moore. Ah, voilà. Mais c'était lui à l'époque où il gagnait quasiment tout d'ailleurs, non?
C'était lui, oui, ouais. Tout à fait, ouais. Et qui est donc le nouveau coordinateur offensif des Dallas Cowboys, oui, mais qui n'a pas laissé un souvenir impérissable en tant que quarterback en NFL. Après, oui, c'est des qualités différentes, en ce sens que Brett Ripien, je trouve, alors je me rappelle plus exactement, j'allais dire qu'il était un petit peu petit. C'est vrai qu'en l'occurrence, 6-2 pour un quarterback, je suis pas sûr que ce soit immense
ouais,
non plus.
1m88, oui, c'est fourchette basse, ouais.
C'est fourchette basse. Après, bon, il a globalement, à mon sens, une bonne précision. Son déplacement est pas optimal dans la poche, mais c'est pas ce que je trouve le plus... Bon, c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes dans son jeu. Après, on parlait vraiment de projet. Là, pour le coup, il y a des éléments, je dirais, en termes de technique de lancer, de mécanique, etc. Il y a des bons acquis. Donc c'est pas forcément le joueur qu'il faudra faire bosser jour et nuit pour vraiment réussir à le développer. Là pour le coup, s'il est couvé derrière un quarterback dans l'optique de devenir un futur numéro 1, il y a de quoi faire. Et pour le coup, bon, 1m88, ça n'empêchera pas de voir derrière la ligne offensive non plus.
Hein. Quand même. Quel niveau pour Ripien du coup?
À peu près la même. J'irais quand même 3ème, 4ème quand même aussi.
Jordan Tamu, Ole Miss, 1m88, 95 kg, 12 matchs, 63,6% de passes complétées, 3918 yards, 19 touchdowns, 8 interceptions et 6 touchdowns au sol. Alors lui, j'avoue que j'étais un peu surpris, je donne le process, hein. Greg me donne sa liste, ce qu'on met dans le conducteur, moi je prépare mes fiches, et du coup je découvre un peu les mecs. Et lui, j'ai eu du mal à le trouver, il était plutôt loin dans la plupart des estimations US, donc je me demandais pourquoi il se trouvait dans ton deuxième chapeau à toi.
Parce que c'est un quarterback qui a quand même un certain potentiel. Du côté d'Ole Miss, c'est un joueur qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds de par notamment les soucis qu'ont eu les Rebels ces dernières années, notamment des soucis académiques provoqués par ce cher Laramie Tunsil au lendemain de ses déclarations sur la draft concernant les pots de vin à certains joueurs de Mississippi.
On va en reparler d'Ole Miss plus tard et de cette génération dorée.
Ah bah là, oui. Là. Alors voilà, Ole Miss a été l'objet de certaines sanctions avec notamment l'autorisation pour les joueurs de partir. Ça a été le cas notamment de l'ancien quarterback d'Ole Miss. Et Jordan Tamu a un peu été propulsé sur le devant de la scène, on n'en attendait pas grand chose. Et alors certes il avait un bon casting avec lui, notamment certains receveurs dont on parlera sans doute tout à l'heure, mais il a quand même montré une certaine aisance dans le jeu très aérien de Mississippi. Donc c'est là où c'est quand même assez intéressant. Il a quand même une bonne précision, il a ce côté également un petit peu, je trouve, à paniquer sous la pression. Alors on dira que c'est propre à certains quarterbacks de la SEC, manifestement, parce qu'on a dit la même chose sur Drew Lock tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est des données un petit peu à améliorer. Après, bon, son bras est pas forcément...
Moi, j'ai lu aussi qu'au niveau mental, l'attaque d'Ole Miss était assez simple, qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot de lecture.
Ah oui, ça c'est sûr. Donc, ça c'est sûr, également, je ne l'ai pas cité, mais... Alors, je sais pas si c'est le fameux quarterback de système, mais en tout cas, oui, c'est sûr que ses fenêtres n'étaient pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué à analyser. Une fois qu'AJ Brown ou DK Metcalf étaient démarqués, il pouvait lancer à plus ou moins les yeux fermés. Après, il s'est quand même un petit peu plus appuyé sur son backfield offensif. Le jeu de Mississippi a quand même, à mon sens, été un peu plus alternant en 2018. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a quand même le bras, même si c'est pas ce qui me bluffe le plus, a un gabarit qui est pas inintéressant, je sais plus combien il fait de tête, mais
il fait 6-2 aussi, remarque. Il fait 1m88, 95 kg.
Ouais, il fait 6-2 aussi, mais en tout cas, c'est pas forcément ce qui fait que je le mets un petit peu en retrait, c'est certains critères que tu as évoqués, les questions mentales et en effet la question de savoir s'il réussira à faire la transition. J'anticipe ta question, mais on serait peut-être plus proche du 4e voire 5e tour.
Projet aussi, quoi.
Ouais. Ah ouais, clairement. Là, c'est des quarterbacks qui seront pas sur le devant de la scène lors de la draft et qui seront peut-être à couver dans un premier temps.
Et puis, une petite sélection de 3 qui sont un peu en retrait selon toi. Donc, le 3e chapeau, c'est Jared Steedham, Ryan Finlay et Tyree Jackson. On commence par Jared Steedham, Auburn, 1m91, 98 kg. Auburn, c'est sa fac, hein, pas ses cheveux. 13 matchs, 60,7%, 27 non, 2794 yards, 18 touchdowns, 5 interceptions. C'est moi où il était un peu mieux coté avant, Jared Steedham. J'ai entendu son nom avant.
Ouais, alors je parlais de parcours tortueux tout à l'heure, c'est un peu son cas également. C'est un ancien quarterback qui est passé par Baylor notamment, avant les soucis là aussi, alors un petit peu judiciaire même de connu par Baylor avec ce fameux Sean Oakman. Je sais pas si tu te rappelles
oui,
ce nom-là,
le lineman, mais récemment acquitté et qui a dit qu'il voulait revenir dans le foot US.
Malheureusement, du côté des Bears, ça a pas forcément été la même chose pour tout le monde, mais voilà, en tout cas, il y a eu ces choses qui ont notamment poussé Jared Steedham à partir, et on va dire qu'entre deux nombreux transferts, il a fini à Auburn, qui a une attaque moins clinquante d'un point de vue aérien, mais qui en tout cas lui a permis d'être un petit peu dans ce côté gestionnaire, parce que c'est un quarterback qui reste assez précis, qui va pas forcément en faire des tonnes, mais qui en tout cas, de par les systèmes, on va dire très aériens dans lesquels ils sont passés, a quand même un bon bras. Après, en termes de prise de décision, je suis un peu moins fan de ce que j'ai vu du côté d'Auburn, et sa dernière saison, notamment du côté des Tigers. Alors, pour faire simple, on va dire qu'il avait un excellent running back il y a 2 ans avec Kerryon Johnson, qui était hyper sollicité et ça mettait moins de pression sur Steadham. J'ai la sensation qu'avec un peu plus de pression sur ses épaules en 2018, le résultat a été un petit peu plus calamiteux et j'ai pas la sensation qu'il ait vraiment franchi un palier. Et c'est pour ça qu'en NFL, je le vois peut-être plus comme une doublure que comme vraiment un quarterback qui sera capable d'être au niveau pour être numéro 1.
En tout cas, il y en a qui y croient un peu plus que toi, notamment Daniel Jeremiah d'NFL Network, donc qui est leur consultant NFL draft, pardon, qui lui, en gros, a l'air plutôt emballé et qui dit il faut juste être plus régulier. Mais sinon, sur les armes, il a l'air plutôt...
Oui.
C'est un gros si.
Oui, c'est ça. Parce que oui, s'il suffisait de dire « bon, bah, je vais être plus régulier pour que ça fonctionne », mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est vrai que ce qui est dur, c'est que forcément, on juge des quarterbacks qui, encore une fois, ont joué dans la plus grosse conférence universitaire, donc forcément, qui ne sont pas forcément jugés de la même manière que d'autres. Maintenant, la pression qu'avait Jared Steadham en 2018, elle n'est pas ressortie de la meilleure des manières. Donc, c'est également ce qui inquiète un petit peu. Et voilà, je l'ai dit, à Auburn, c'était un bon gestionnaire, mais ça n'a jamais été le quarterback très coté qu'on attendait de voir à son arrivée à Baylor.
Ryan Finley, NC State, 1m93, 95 kg, 13 matchs, 67,4%, 3928 yards, 25 touchdowns, 11 interceptions. Alors, je suis allé voir sur Walter Football, là pour le coup, il y avait une punchline qui était assez violente. Une version moins athlétique d'Alex Smith. Alors, j'ai rien contre Alex Smith, enfin, à une époque on croyait que si, mais c'est vrai que sa mobilité est sous-cotée à Alex Smith. Et après, c'est un bon passeur. Mais voilà, enfin, ça fait pas rêver en fait, cette phrase.
Non, ça fait pas rêver. Bah, après, il y a le côté un petit peu. C'est vrai que c'est souvent cet exemple que je prends pour dire que c'est pas un joueur qui va faire 5 milliards sur la saison et qui va balancer à tout va les fameuses mitraillettes, comme on les appelle aux États-Unis. Mais en l'occurrence, Ryan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ben Finley, je dirais que c'est même pas ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de critères qui, là encore, vont plaire à certains scouts. Là, pour le coup, il est un petit peu plus grand.
93,
voilà, il rentre un peu plus dans les standards. Il a un bon placement, je trouve, dans la poche, mais en termes de prise de décision, je me rappelle du match à Clemson que joue NC State, le syndrome de la flaque d'eau, hein, parce que là, c'était panique à bord.
Alors, c'est ça, moi j'ai noté dans mes pérégrinations web, pas précis, décision idiote, se concentre trop sur sa première lecture.
Alors, pour le coup, c'est vrai. Alors, on parlait de Tahamu tout à l'heure. Lui, c'est vrai qu'il a eu l'avantage du côté d'NC State d'avoir d'excellentes cibles, dont un joueur dont on va parler tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu où c'était un peu le quarterback. Je ferme les yeux, je le lance vers lui. A priori, il y a 9 chances sur 10 pour que ça passe.
Ça me semble être une bonne recette en NFL.
Voilà, oui, voilà. Je pense que encore une fois, quand les backfields seront un peu renforcés avec le safety qui sera un peu en spy, à mon avis, je suis pas sûr que ça va passer tout le temps. Mais non, voilà. Après, c'est un quarterback qui peut être un bon numéro 2. Mais bon, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Je trouve qu'il a quand même beaucoup, d'un point de vue technique, c'est c'est pas un joueur que je trouve hyper rassurant, et même au niveau de la lecture, malgré l'expérience qu'il a eue du côté de North Carolina State, c'est pas bluffant.
Donc là, on est sur du pari de 6-7e tour pour
oui,
faire un remplacement.
Je pense.
Tyree Jackson, pour terminer, il vient des Buffalo Bulls, pas les Buffalo Bills. 2m01, 111 kg, alors c'est le beau bébé de la QV. Il fait 14 matchs, 55,3% de passes complétées, 3131 yards, 28 touchdowns, 12 interceptions. Et alors là, pareil, j'ai de la punchline, hein. Un tank avec un canon à la place du bras, et USA Today qui pense que c'est le mec le plus précis sur les longues passes. Donc est-ce que c'est un joueur de rêve, et pourquoi on l'a manqué? Ouais. Il est grand, il est costaud, il a un canon à la place du bras, il est précis sur les longues passes.
Alors ça, il a un bras canon. Non, alors honnêtement, il a contribué au fait que Buffalo ait vraiment explosé. Buffalo, on le rappelle, la future fac d'ailleurs de Jordan Avicet, le français. Il a contribué à permettre à l'attaque notamment des Bulls de vraiment progresser ces dernières années. Après, il me paraît quand même un petit peu limité. On vante beaucoup sa mobilité et son bras canon. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que t'en fais. Parce que c'est-à-dire que s'il faut lancer des longs ballons systématiquement, je suis pas sûr que ça va marcher tout le temps.
Alors voilà, moi j'ai joué le teasing au début. Après, j'aurais pu te dire que j'avais aussi lu qu'il était peut-être imprudent, lit pas la couverture et vient d'un système spread, ce qui est retenu contre lui. Et petite anecdote, il se serait lancé, enfin il aurait appris en regardant des vidéos YouTube.
Bah, au moins,
Et non mais alors vrai argument de son coach, enfin un des, je me rappelle plus du nom du mec exactement, mais qui avait bossé avec lui, qui disait s'il a appris tout ça en regardant YouTube, imaginez ce qu'il peut faire avec des vrais coachs autour de lui.
C'est peut-être vrai, hein. Encore une fois, c'était pas un mauvais quarterback en college football. C'était moi, il a régulièrement été aux portes de mon top 10 et il était dans mon dernier top 15 sur les rankings. Donc c'est clairement, mais puis s'il est cité là, c'est que c'est pas non plus un.
C'est le cliché, tu sais, du mec dans les films américains qui prend un ballon pour la première fois, qui le lance et du coup, il est le méchant dans le film qui essaie de capter le ballon et est projeté contre le mur. Tellement le mec a un bras de ouf et il faut juste qu'il apprenne à le polir. Et tu sais, un des coachs qui est présent à cette fête le voit et dit je vais faire de lui mon projet quoi.
Non mais bon.
C'est une superstar.
Non, en tout cas voilà, il y a quand même du talent, du potentiel. En effet, c'est un joueur qui est capable pour le coup de prolonger les jeux, d'aller chercher les gains à la course, et en effet de malgré tout vaut mieux quand même avoir le bras et être capable d'être efficace sur lancer profond, puis éventuellement de s'améliorer sur tracé intermédiaire. Ça me paraît plus compliqué dans le sens inverse. En ce sens que voilà, si t'es pas bon pour lire une défense sur une couverture profonde, ça va commencer à se gâter un peu. Bon après, il y a beaucoup de si, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, faut tomber sur le bon coaching staff, faut être capable de vraiment réussir à polir ce projet. Mais bon, pour moi, je le répète, ce sera potentiellement un bon numéro 2, mais j'ai du mal à le voir sortir au-dessus du 6e, 7e tour.
Voilà pour les quarterbacks, les principaux quarterbacks. En tout cas, petite pause et on passe au receveur.
You play to win the game. Hello? You play to win the game. You don't play to just play it.
On est de retour pour parler des receveurs et des tight ends, puisque je les oublie à chaque fois. Les receveurs et les tight ends, on va commencer. Alors là, découpage différent, puisqu'on a les stars, les valeurs sûres, les busts.
Ah, ta chronique préférée.
Et ouais, et j'oublie
les
toujours
styles.
Les styles, voilà,
les bonnes affaires.
On va commencer par les stars. Alors, on va vous référer quand même, je pense, beaucoup au numéro 286, puisque tous les joueurs présents là, en fait, étaient dans le top 15 de la draft. On a DK Metcalf, TJ Hockenson et Noah Fant. Y en a trois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais juste vous rappeler en quelques mots. DK Metcalf, il vient d'Ole Miss, c'est un receveur d'1m96, 108 kg, qui a capté 26 ballons en 7 matchs avec 5 touchdowns. Alors, gros costaud, très rapide, pas forcément mobile latéralement. Mais Greg, je vais vraiment juste en une phrase sur cela, je voudrais faire pour tout le côté complet au podcast numéro 286. Mais Greg, donc lui, tu y crois ou tu y crois pas, Metcalf?
Je l'ai mis en 6 du big board. Après,
c'est
après, c'est sûr que c'est un pari. C'est très clairement un pari. Rapidité, tu le disais, puissance. Après, c'est sûr que bon, il y a des atouts à développer, notamment les mains, les tracés. Et bon, il y a un petit panel à développer, mais en tout cas, là encore, il y a quand même des bons acquis à sa disposition.
TJ Hawkinson, tight end d'Iowa, 1m96, 104 kg, 13 matchs, 49 réceptions, 760 yards, 6 touchdowns. Lui, c'est le tight end complet, excellent bloqueur, cauchemar à couvrir. Main sûre, lui, pour rappel, tu le vois au premier tour, c'était surtout ça dont je me rappelle plus.
Oui, bah moi, je serais premier tour quasiment sûr. Pour moi, top 15, c'est vraiment une équipe et amoureux. Et honnêtement, voilà, c'est quand même... Le tight end hyper complet. Et
C'est très très haut pour un tight end quand même, top 15. Donc ça pourrait,
On en a déjà vu. Hein,
Il était 11e de ton top 15, je rappelle. Et puis Noah Fant était 14e, 1m96 aussi, 109 kg, 12 matchs, 39 réceptions, 519 yards, 7 touchdowns. Un peu moins complet, un peu moins bon sur les blocs. Mais tu y crois aussi, premier tour aussi?
Oui, premier tour aussi, parce qu'en effet, il est un poil moins bon sur les blocs. Mais ça reste quand même un joueur performant sur ce domaine-là, et ça reste surtout une grosse menace athlétique dans le domaine aérien. Ça peut être un nouveau Evan Ingram encore meilleur sur les blocs, donc ça peut largement faire un premier tour.
C'est une stat à mon avis que nos collègues américains vont creuser, mais deux tight ends de la même fac au premier tour, ça n'a pas dû arriver souvent. Hein.
Ah, faudrait que je refoule. On avait eu deux running d'Auburn au premier tour, mais comment il s'appelle ? Ronnie Brown et Kadiak Williams.
Ah oui, ceux-là, d'accord. Ouais, je voyais
encore. Oui, ça commence à remonter un petit peu, mais deux tight ends, j'en ai pas souvenir.
Je voyais le trio plus récent là, quand ça jouait pas mal aussi. Très bien. Donc, on va passer aux valeurs sûres. Kevin Harmon, Marquise Brown et Deebo Samuel. C'est toujours les receveurs qui ont les noms les plus chelous, non ? Parce que on verra sur le podcast lineman et coureur, là pourquoi il y a beaucoup moins de variété. Kelvin Harmon, NC State, 1m91, 97 kg, 91 réceptions, 1186 yards et 7 touchdowns. Alors c'est des superbes stats, hein, ça doit être sur 14 matchs si je dis pas de bêtises. Il semble avoir toutes les qualités d'un receveur, sur les mains, sur les tracés, sur les courses, après la réception. Il manque juste un peu de vitesse, de ce que j'ai lu.
C'est un peu ça. Son grand problème, entre guillemets, c'est que c'est un anti-DK Metcalf, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'explosivité, la rapidité, mais c'est vraiment un joueur assez bluffant. Il a des mains extrêmement fiables. Et puis voilà, c'est un joueur sur qui on peut... J'en parlais un petit peu tout à l'heure de manière caricaturale avec Ryan Finlay, mais c'est le joueur sur qui on est capable de se reposer sur des moments chauds. Et très franchement, à NC State, pendant les 2-3 ans qu'il a passé là-bas, en tout cas en tant que titulaire, il a été quasiment, il était très très souvent décisif. Donc tracé excellent, main sûre, en termes de mobilité, même s'il n'a pas une vitesse fulgurante au combine, c'est pas ce qui a choqué non plus. Donc pour moi c'est un joueur extrêmement complet, et c'est pour ça que je le mets en valeur sûre. Si on cherche un bon numéro 2 dès sa première année, et parce que je pense qu'il n'y aura pas 10 000, un potentiel bon futur numéro 1, Kelvin Harmon me semble être celui-là.
Premier tour ?
Ça va être compliqué, ça dépend s'il y a embouteillage avec les linemen défensifs, mais fin premier, maximum début deuxième.
Marquise Brown, Oklahoma. Alors, à Oklahoma, tout le monde fait 1m78, hein, visiblement, c'est un critère de recrutement.
Oui. Plus haut, on ne prend pas.
C'est ça, il fait la même taille
Kyler Murray.
Kyler Murray, merci, 77 kg, 14 matchs, 75 réceptions, 1318 yards, 10 touchdowns. Donc, même chose que le quarterback, c'est les mensurations qui posent un peu question. Après, alors à mon grand étonnement, il fait à peu près la même taille que T.Y. Hilton. Et c'était une des comparaisons que je voyais revenir.
Ouais, alors la grosse comparaison aussi qui revient, c'est DeSean Jackson. Alors, Marquise Brown, comment expliquer ? Alors, déjà, j'expliquais tout à l'heure que j'étais un peu sceptique par rapport à la comparaison Baker Mayfield-Kyler Murray. Certains expliqueront que le fait que les deux joueurs aient été Heisman Trophy, il y a peut-être aussi un lien avec certaines de leurs cibles. Et en l'occurrence, Marquise Brown, Hollywood, comme on l'appelle.
Oui, j'allais te demander si ça veut dire qu'il était flambeur ou s'il y avait un truc particulier, j'avais noté ça aussi.
Ouais, je sais pas, je pense que ça va être pour son côté un peu star system, enfin voilà, pour un mec qui crève l'écran, parce que très clairement, ça a été le cas du côté d'Oklahoma.
Donc pas les Giants. A priori, il sera pas sélectionné par les Giants. Ils ont leur dose avec ça.
Ah oui, par rapport aux distractions LBK.
Ils vont pas prendre un mec qui s'appelait appelé Hollywood, quoi. Là, ce serait quand même le pompon.
Ah bah écoute, on n'est plus à une contradiction près de la part de Gabe Gettleman, mais ça, c'est un autre débat.
Allez, en 6.
donc, non, en tout cas, c'est un joueur. Certes, sa taille joue contre lui, Maintenant, voilà, là c'est très clairement le receveur hyper explosif, et quand il a le ballon en main, c'est assez détonnant là pour le coup. Les yards après réception, il s'est régalé du côté des Sooners avec une bonne vision, une prise d'espace, une accélération qui est assez bluffante. Donc là pour le coup, c'est pas forcément un receveur de possession comme Calvin Harmon, mais si on veut en tant que valeur sûre, un receveur numéro 2 qui va réussir à vraiment être explosif, que ce soit à la réception ou même sur des tracés jet sweep à la course, donc avec les running backs, avec des receveurs qui passent dans le backfield offensif pour réceptionner le ballon et partir sur le côté, ça peut être ce type de profil-là assez intéressant.
Bah après, avec son gabarit, il vaut mieux soit lui filer le ballon directement dans les mains, soit qu'il ait de la séparation, parce qu'a priori, sinon ça va être compliqué.
Bah, c'est sûr que le duel, ce sera pas forcément son facteur privilégié. Après, bon, en plus, il traîne quelques petits soucis de blessure. Là, récemment, il s'est fait opérer, et c'est ce qui a empêché sa participation au combine. Mais a priori, la vitesse, là, pour le coup, vu qu'on parlait d'Harmon tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui pose problème. Donc, j'anticipe ta question, mais
tu peux, vas-y, enchaîne.
Je serais très surpris qu'il soit pas au premier tour. Là, c'est pareil, maximum, il sera au début deuxième.
Deebo Samuel, South Carolina, 1m83, 95 kg, 12 matchs, 62 réceptions, 882 yards, 11 touchdowns. Costaud, bon tracé, bonne main, capable d'aider sur les équipes spéciales. Pas super rapide, mais complet.
Ah, je te confirme qu'il aide beaucoup sur les équipes spéciales. Parce que je crois que c'est en 2017 où il doit faire. Alors, il fait une saison écourtée par des blessures. Et il doit faire 2 ou 3 retours qui se terminent quasiment tous par des touchdowns.
D'accord.
Donc c'est en termes de, si on cherche un bon receveur très efficace sur les retours de coups de pied, Deebo Samuel, c'est une valeur sûre. C'est un joueur que j'adore, qui était excellent du côté de South Carolina, qui en effet a une progression un petit peu freinée par des blessures, qui semble malgré tout derrière lui de par ce qu'on avait en 2018. Après, tu l'as dit, c'est un joueur qui sait à peu près tout faire. Il a un gabarit qui lui permet à la fois d'être efficace sur la possession, mais aussi potentiellement sur les yards après réception, parce que même si c'est pas le plus explosif, il a cette lecture qui lui sert dans toutes les phases de jeu et qui lui permet de prendre à défaut la défense adverse. Donc honnêtement, ses pépins physiques vont peut-être le repousser au deuxième tour, mais je le vois pas descendre en dessous, et je pense que ça peut être un excellent numéro 2 en NFL.
Tu m'as dit donc deuxième tour. Hein.
Deuxième tour. Ouais.
C'est l'instant anecdote. Je suis désolé. En fait, j'ai eu un petit temps de latence parce que j'étais concentré sur mon anecdote. Je relisais. Son vrai prénom, c'est, parce qu'il s'appelle pas Deebo en vrai.
Oh, je sais plus. J'ai vu tellement de vrais prénoms que.
Alors, il s'appelle Tyshon. T-Y-S-H-U-N. En fait, Deebo, c'est un surnom qui est lié au personnage joué par Ice Cube dans le film Friday. Voilà, c'est son papa qui l'a surnommé comme ça.
Très bien.
On passe au bust. Irv Smith Jr., Hakeem Butler et N'Keal Harry. Oui, N'Keal, N'Keal, N'Keal. Irv Smith Jr., tout d'abord, tight end d'Alabama, 1m93, 109 kg, 15 matchs, 44 réceptions, 710 yards, et 7 touchdowns. Je vais à l'inverse. Tu me dis que c'est un bust, et moi je lis qu'il court des bons tracés, qu'il a des bonnes mains et qu'il a encore du potentiel. Pourquoi tant de haine?
C'est dur de le mettre dans les busts.
C'est l'instant.
C'est dur de le mettre dans les busts. Après, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne un peu avec Irv Smith, c'est que, alors, je trouve qu'il a beaucoup profité de la nouvelle attaque d'Alabama, où il était très bien entouré, avec pas moins de 4 receveurs écartés pour lui permettre justement d'avoir une capacité de séparation, on dira plus efficace, un Tua Tagovailoa qui accumulait les big plays, donc encore une fois, qui facilitait peut-être un petit peu son aptitude à se démarquer plein centre. En fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est pas forcément un raisonnement le plus poussé que je vais avoir sur ce podcast, c'est que je regarde les tight ends d'Alabama ces dernières années, et même un joueur comme O.J. Howard, qui était beaucoup plus fort que lui à mon sens, a pas forcément éclaté en NFL. Donc là, je regarde et je me dis oui, il est complet. Il a une marge de progression intéressante, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à devenir un tight end vraiment d'impact en NFL et pas, on va dire, une option parmi tant d'autres dans le système offensif? C'est là ma question, et c'est pour ça que presque la mort dans l'âme, je le mets dans les busts.
Non, mais c'est une bonne réflexion. Moi, quand tu m'as dit ça va pas aller très loin, ma réflexion, je croyais que j'aime pas sa tronche. Franchement, moi, je l'ai vu sans casque, j'aime pas, c'est un bust.
Non, je suis pas allé jusque là, mais
non, mais c'est une bonne analyse. C'est vrai que les tight ends de Bama, et en effet, je me rappelle que O.J. Howard était annoncé comme quelque chose d'un
après c'est vrai que O.J. Howard a été ralenti par des blessures aussi, mais il était encore plus impressionnant qu'Irv Smith, encore plus expérimenté aussi, et
il y a Tampa, si je dis pas de bêtises.
Il y a Tampa,
oui, donc il a été ralenti par ça aussi.
Oui, mais pour le coup, il y avait une grosse attaque à Tampa avec, enfin, l'année dernière. Ils ont accumulé beaucoup de yards quand même, mais bon.
Oui, ils avaient pu en profiter. Ils étaient numéro 1 à la passe en plus, je lui mets 10 ans. Quel niveau il va être choisi d'après toi pour être un bust? Ça va s'emballer.
Je le vois difficilement au premier. Je pense que ce sera un deuxième tour.
D'accord, oui, donc ça fait haut quand même. Hakeem Butler, Iowa State, 1m98, 102 kg, 13 matchs, 60 réceptions, 1318 yards, 9 touchdowns. Alors, il est hyper loin dans certaines projections US. Je vois que tu l'as mis en bust. Ça veut dire que tu penses qu'il y a une franchise qui va s'emballer et le prendre haut. Parce qu'il a fait un bon combine, donc c'est vrai que ça peut jouer. Il est énorme en red zone, il est très grand, il est costaud une fois qu'il a le ballon. Le problème, c'est de l'avoir, visiblement, le ballon. Au niveau des mains et des tracés, c'est pas top.
Alors là aussi, c'est un peu la mort dans l'âme parce que j'aimais beaucoup ce joueur à Iowa State. En fait, c'est typiquement le type de receveur. Tu vas le voir faire des trucs de malade, des réceptions à une main, limite autour du cornerback. Enfin bref, des trucs assez hallucinants. Et les réceptions les plus simples, il va les foirer, quoi. Donc c'est, je dirais qu'il y a peut-être un déficit sur peut-être de concentration, de, tu le disais, c'est sûr qu'il a la taille, il va être très dangereux, notamment sur des
1,98, c'est même grand pour un receveur, hein.
Bah, c'est sûr, ça, en plus ça joue contre lui, notamment sur les déplacements. Ouais. C'est pas forcément ce qui va l'aider, notamment sur les tracés et son aptitude, pardon, à se séparer de son cornerback. Par contre, contre des cornerbacks en presse, il aura peut-être du répondre également, vu qu'il a du gabarit, il a du coffre pour répondre. Il me rappelle quand même beaucoup, et ça m'embête de dire ça, il me rappelle beaucoup Josh Docton.
D'accord, oui.
C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est encore une fois, c'est un receveur avec du potentiel, mais j'ai un peu peur que là, tout à l'heure, on parlait d'irrégularité. Là, on peut clairement être en plein dedans. Donc,
je sens que t'es gêné en fait quand on parle des buzz. Je comprends, j'explique quand même aux auditeurs. On avait hésité à changer la structure des émissions cette année. Je lui avais dit, on fait une spéciale star, une spéciale bust, une spéciale bonnes affaires. Et je comprends en fait maintenant. Greg est quelqu'un de trop gentil pour faire une émission spéciale bust où il passe une heure à dire lui non.
Et puis tu les vois. Bah, si on en parle, c'est qu'ils ont quand même brillé en college football. Oui. T'as vu des qualités, ouais, etc. Donc c'est sûr que d'insister plus lourdement sur les défauts, c'est compliqué.
Bah ouais, non mais je vois que t'es tout gêné. Et si on avait fait une émission spéciale buzz, t'aurais dû envoyer des tweets d'excuses à chaque joueur individuellement, genre excusez-moi, you don't know me, I am French, I am in a podcast, please don't listen to me, I didn't know what I said, tout ça ça aurait été dur. Bon, en tout cas, Hakeem Butler, donc
je le vois en deuxième, troisième tour quand pour répondre à ta question, mais ça peut ne pas être sans conséquence.
Nkilari, pour Arizona State, 1m93, 97 kg, 12 matchs, 73 réceptions, 1088 yards, 9 touchdowns. Et là, j'ai une comparaison qui fait très très peur. J'avais dit qu'on allait reparler d'Ole Miss. J'ai lu une comparaison avec Lincoln Treadwell.
Oh non.
Je te jure que c'est vrai.
C'est pas impossible.
J'ai lu une comparaison avec Lincoln Treadwell.
C'est pas impossible.
Alors, on rappelle pour ceux qui découvrent l'émission, Lincoln Treadwell, c'était un espoir donc d'Ole Miss il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Ça commence à remonter.
3 ans, ouais.
Donc, que j'aimais bien, hein. Pour moi c'était un joueur qui allait tout cartonner, il a été même sélectionné au premier tour je crois quand même, par les Vikings.
T'as peut-être deuxième receveur derrière Will Fuller.
Ouais, voilà, donc il était très haut et depuis il l'est plus vraiment, donc il a quasiment rien fait, hein, depuis qu'il est arrivé en NFL. Dans la fiche vous parliez d'Alshon Jeffery, c'est le meilleur scénario?
Oula, c'est pas ce que j'aurais mis.
C'est pas ta fiche.
Mais après je suis pas spécialiste des comparaisons NFL, en tout cas c'est pas ce que je préfère, donc après je ne dis pas que ce qui a été mis n'est pas bon. Nkilari, alors, je vais reprendre également une habitude, hein, une phrase qui revient chaque année, mais là, on est en plein dans le receveur qui a pleinement profité d'une bonne conférence. La fameuse conférence Pac-12 où les défenses sont monstrueuses.
Les passes de partout.
Et Nkilari, il a quand même profité de ça. Alors, lui aussi, il a beaucoup surfé un petit peu sur quelques catchs spectaculaires qu'il a pu faire. Après, en termes de mobilité, là aussi, c'est pas un des receveurs les plus rapides de cette classe, même si paradoxalement, il a quand même un petit peu rassuré au combine par rapport à ça. Mais en termes de tracé, il est pas excellent non plus. Et voilà, on va dire que ça peut être un joueur un peu unidimensionnel, un joueur qui va beaucoup jouer sur son physique, qui peut également, à l'instar d'Hakeem Butler, être un joueur précieux dans la red zone quand il faut catcher des ballons. Après, je pense qu'il y aura beaucoup plus de déchets dans son jeu, on dira, sur des tracés intermédiaires, et encore plus, du coup, sur des ballons un peu longs, s'il tombe sur des corners assez rapides. Donc, certains le voient au premier tour.
Ah ouais.
Je dirais quand même début, milieu, deuxième.
On reste très haut quand même hein, sur certains.
Ah non, si c'est des busts, je te...
Il n'y a pas de top receveur, mais ça m'a l'air d'être dense fin premier, deuxième.
Ah, c'est très homogène. Ouais. C'est vraiment une... J'aurais pu te mettre 15 noms parce que c'est très très dur de réussir à faire du tri là-dedans.
Il y en a quelques-uns que tu n'as pas mis, je te citerai en un mot après.
Ouais, mais bon, Nkilari, en tout cas, tu l'as compris, je ne suis pas convaincu à 100%.
Et eux, tu es conquis par eux puisque ce sont des bonnes affaires. Andy Isabella, Travis Fulgham, Cahal Waring. Alors là, je vous dis, c'est un peu l'instant rendez-vous en terre inconnue pour moi. puisque quand Greg me donne sa liste, en général, les styles et donc les bonnes affaires, c'est des mecs qui sont dans des facs genre anonymes, que je dois retourner le dark web ou trouver des sortes de vidéos YouTube. C'est le film de la mort de Kennedy. Enfin, je dois demander ça à un mec qui me la passe sous un APR dans un parking à minuit et tout. Je ne sais pas comment Greg découvre ces gens, mais on va commencer par Andy Isabella, qui joue à UMass, donc Massachusetts, je suppose.
Tout à fait.
1m78, 86 kg, 12 matchs, 102 réceptions, 1698 yards et 13 touchdowns. Alors lui, il a des stats folles. Donc c'est quoi? C'est le système? C'est la production? C'est qu'il joue dans une conférence où il n'y a personne à côté?
Très franchement, c'est qu'il est très, 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 il est très talentueux parce que à UMass, il a été productif, mais il était au Senior Bowl, si je me trompe pas, il a été excellent aussi. Lors du combine, pour un joueur de son gabarit, alors, je sais plus si t'as donné
1,78, 86 kilos.
Et pourtant, sur le bench press, enfin, sur le développé couché, il a été quasiment un des plus performants. Donc c'est vraiment, je vais pas dire que c'est le profil d'un Julian Edelman, mais c'est vraiment ce côté un petit peu petit joueur, en tout cas un peu dur au mal, un peu teigneux, des joueurs qui ont peur de rien quoi. Et c'est vraiment un joueur qui a des excellents changements de direction, une bonne prise de vitesse. Forcément, sur des duels avec des cornerbacks, c'est pas celui qui va se distinguer le plus, mais en tout cas il joue sur d'autres arguments, sur le côté un petit peu plus esquive, prise de vitesse comme je le disais, et ça. Honnêtement, sa cote grimpe au fur et à mesure des semaines. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait peut-être un troisième tour. Et je pense qu'il y a une équipe qui va s'en frotter les mains parce que ça peut être un excellent numéro 2, numéro 1, je ne sais pas. Mais en tout cas, un excellent numéro 2 dans un premier temps.
Et il a des très beaux yeux.
Sans doute.
Isabella, les yeux bleus.
Oh non. Oh non.
Allez, Travis Fulgham. Alors, c'est pour là que je vannais un peu, surtout parce que Travis Fulgham nous vient de Old Dominion, donc c'est une fac qui a un nom de cocktail cubain. Mettez-moi un Old Dominion avec Travis Fulgham. 1m90, 94 kg, 12 matchs, 63 réceptions, 1083 yards et 9 touchdowns. Bon physique, bonne main. Moi, j'avais un peu le feeling en lisant les fiches, c'est moyen, bon partout.
Oui, c'est un peu ça. Bah, alors, on va le dire clairement, hein, Old Dominion. Alors. C'est pas la fac dont on parle le plus, pas celle qui sort le plus de prospects NFL. Maintenant, on va en parler un petit peu, notamment parce qu'ils ont un top pass rusher, qui sort de leur rang, donc ils seront un petit peu plus en lumière. Après, Travis Fulgham, c'est sûr que dans le marasme offensif d'Old Dominion cette saison, ça a été compliqué de le voir un petit peu. Après, c'est vrai qu'il a un physique, une capacité de tracé que je trouve assez intéressante. En effet, des mains qui peuvent se révéler précieuses. Alors, il a un petit déficit de vitesse et c'est pour ça que je le vois pas devenir forcément un top joueur, mais en tout cas, ça peut être notamment dans un premier temps une très bonne option. Un très bon receveur numéro 3 par exemple qui peut éventuellement grimper petit à petit dans la hiérarchie, et c'est pour ça que je le trouve assez intéressant. C'est un joueur qui a du caractère en plus, qui a un certain tempérament, donc dans une équipe qui cherche un petit peu de profondeur sur le poste de receveur, ça peut être une belle surprise à l'échelon supérieur.
Niveau de draft,
je dirais 4e-5e quand même.
On termine avec Cahal Waring, tight end de San Diego State, 12 matchs, 31 réceptions, 372 yards, 3 touchdowns, 1m98 pour 113 kg, bonne route, bon bloqueur, un peu irrégulier au niveau des mains.
Ouais, alors, oui et non, dans le sens où le paradoxe avec Cahal Waring, c'est que du côté de San Diego State, on était vraiment dans une attaque à outrance au niveau du jeu au sol. Donc on va dire qu'on a vu une certaine irrégularité, je vais y arriver, au niveau de la réception, mais on n'en a pas vu grand-chose non plus. De ce qu'on en a vu, il y a quand même, on dira, un côté ombre et un côté lumière, parce que, en effet, en termes de tracé, c'est pas ce que je trouve le plus rassurant. Maintenant, il a en effet un physique qui est assez dissuasif. Il a des mains qui peuvent être assez précieuses par moment. Et c'est pour ça que, à l'échelon supérieur, je me dis que ça peut être un joueur intéressant, au moins sur le bloc. Au moins sur le bloc. Après, au niveau des, Au niveau des mains, je pense qu'il est capable de se perfectionner s'il tombe dans une attaque qui le mettra un petit peu plus en lumière dans ce secteur-là. Donc, à l'heure actuelle, ce serait peut-être un 5e, 6e tour. Mais ça peut en effet devenir un tight end peut-être numéro 2 dans un premier temps, à qui on va donner de plus en plus de responsabilités, ou qu'on va sans doute impliquer dans une attaque à deux tight ends.
Le niveau, donc tu m'as dit 5e, 6e.
5e, 6e, je pense.
Je vais donc te demander un petit mot. Il fallait faire des choix, donc on n'a pas pu tout mettre. Il y en a certains qui avaient l'air très hauts, que tu n'as pas mentionné. Je pense à Edgy Brown, Paris Campbell, Riley Ridley, notamment, qui sont des noms que j'ai vu revenir. Pourquoi, en bref, pas cela dans ces sélections de stars, de valeurs sûres ou de bust? Ils sont, parce que Paris Campbell, par exemple, je le voyais assez haut. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait être au deuxième, troisième tour, par exemple?
Alors, Paris Campbell, c'est, Ohio State, c'est, hein. C'est compliqué à évaluer. Paris Campbell, ça fait partie, pour le coup, de ces receveurs un peu petits. Parce qu'il a combien? Il a 5'11", je crois. Il est quand même assez... un gabarit un peu de peu. En tout cas, il joue beaucoup sur l'explosivité. Là, c'est clairement, c'est un peu un Marquise Brown en moins fort. C'est-à-dire que il est capable de d'apporter justement sur des tracés screen, sur ce genre de, sur des tracés intermédiaires tout court, il est capable de faire en sorte que le jeu devienne important et spectaculaire avec des big plays à outrance. Après, je l'ai pas trouvé depuis son arrivée à Ohio State, on l'annonçait comme un joueur hyper canon. C'est pas la sensation que j'ai eue, en tout cas. Il a paru très, très irrégulier, en tout cas beaucoup dans la masse au sein des nombreux receveurs d'Ohio State. Et c'est pour ça, peut-être qu'encore une fois, en tombant dans un bon environnement NFL avec des coachs qui sauront l'utiliser correctement, il va peut-être réussir à exploser. Maintenant, à l'heure actuelle, j'en fais peut-être encore un deuxième tour. Je sais que certains l'envoient au premier.
C'est pas mal.
Oui, c'est ça. Mais il a des bons outils, on dira. C'est un joueur qui n'a pas des mauvaises mains et qui, encore une fois, a une vitesse qui, en termes de puissance, n'est pas tout frêle non plus. Donc non, c'est un joueur qui peut être intéressant. Mais,
Et Edgy Brown, du coup, ça avait l'air d'être... Parce qu'il est, je crois qu'il est même au Patriots dans votre dernier mock draft sur le site. Donc, il est premier tour, du coup.
Il est aux portes du premier tour. Là, on en parlait tout à l'heure de cette classe de receveurs très homogène. Edgy Brown, il était très haut dans un premier temps. Là, il est peut-être fin premier, début deuxième. Un peu comme Enkilari, il y avait des questions concernant notamment sa vitesse, des interrogations sur lesquelles il a apporté des réponses satisfaisantes, on dira, notamment lors du combine. Après, il a des bons tracés. Lui également, en termes de yards après la réception, notamment quand il faut aller au duel physique pour casser des plaquages, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Donc ça peut être un bon prospect, un bon receveur numéro 2 en tout cas dans un premier temps.
Eh bien voilà, alors tiens, juste un petit mot, on est d'accord qu'Hunter Renfrow sera sélectionné par les Patriots, ça deviendra du nouveau Julian Edelman.
Je sais pas, mais c'est un excellent joueur, un receveur de poche qui a été très précieux à Clemson sur les troisièmes tentatives notamment, et qui est notamment l'auteur du touchdown de la victoire des Tigers il y a 3 ans lors de leur première victoire contre Alabama.
C'est pour ça que je connais. Ça fait longtemps qu'il est là, lui a de l'expérience. Et bien c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 289 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On remercie évidemment tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas aussi à laisser des évaluations, des commentaires, tout ça sur iTunes, sur tout ce que vous pouvez. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Abonnez-vous sur YouTube et tout ça. Merci beaucoup Grégory.
Toujours un plaisir.
On continue ces aventures la semaine prochaine avec les running backs et la ligne offensive. Twitter @TDActu. Pour le perso, c'est @Thielo. Radio ça pour Greg, Atalan Matéi pour moi-même. Les comptes, le Facebook du site, pardon, facebook.com/TDActu, Instagram, c'est @TouchdownActu en entier. Je vais y arriver. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. On se quitte en musique et à la semaine prochaine pour d'autres fiches draft. Ciao, ciao!
To the floor, was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. A subway train, long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to try.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.